Chapitre 9. Alors qu'ils atteignaient les contreforts de la dernière montagne d'une longue chaîne, très loin de surplomb du monde, les deux jeunes gens s'immobilisèrent pour observer l'étendue d'eau qui miroitait au soleil devant eux. Certes, ils étaient en mission pour la magicienne Nietzsche, mais ça ne les empêchait pas de s'émerveiller. Oliver cligna plusieurs fois des yeux pour focaliser sa vision. Après des années passées aux archives, ses yeux étaient habitués à déchiffrer d'antiques textes à la lumière des lampes. Ce fabuleux paysage stimulait son imagination. « C'est l'océan ?» demanda-t-il. « Je ne l'avais jamais vu. »« Comme tout un chacun à surplomb du monde ?» dit Peretta. Debout tout à côté de son compagnon, la mince jeune femme mit une main en visière pour ne pas être éblouie par le soleil couchant. Peretta faisait partie des mémoristes, des détenteurs du don qui gravaient dans leur mémoire d'innombrables grimoires et traités d'histoire. Manque de chance, cette aptitude remarquable l'incitait à croire qu'elle savait tout. « De toute façon, » reprit Peretta, « ce n'est pas l'océan. » Comme si elle allait faire un sermon, elle écarta les bras. « Ce n'est qu'un fleuve qui finit par se jeter dans l'océan, comme nous l'ont expliqué les gens de Lockridge. Regarde bien, on aperçoit la berge opposée. » Oliver plissa de nouveau les yeux. « Oui, on voyait une rive, même pas si loin que ça. « Ton fleuve est beaucoup plus large que notre cours d'eau à la maison. »« Normal, c'est une petite rivière. Là, tu vois un vrai fleuve. » Oliver modifia la position de son sac à dos. Après des journées de marche à travers l'ancien monde, tous ses muscles lui faisaient mal et les lanières lui irritaient la peau. « C'est mon premier fleuve, je l'avoue, » souffla Oliver. Pour pouvoir délivrer leur important message au seigneur Rall, les deux jeunes volontaires avaient encore de la route à faire. « Pareil pour moi !» fit Peretta avec un de ses rares sourires. Dès qu'elle cessait d'avoir l'air omnisciente, la jeune femme devenait plutôt jolie. À 18 ans, elle était encore un peu frêle et manquait parfois de grâce. En revanche, elle avait de très beaux yeux sombres et des cheveux bruns bouclés qui faisaient comme une corolle à son petit minois. Malgré sa mauvaise vue, Oliver la distinguait très bien quand ils étaient près l'un de l'autre, et c'était arrivé souvent depuis leur départ de surplomb du monde. Trop souvent, peut-être. Marchant en direction du fleuve, Oliver et Peretta quittèrent les contreforts, puis s'engagèrent sur une piste assez large, sillonnée d'ornières de chariots. Des deux côtés s'étendait une plaine semée de hautes herbes, de massifs de roses sauvages et de saules ratatinés. La simple idée que d'autres gens soient passés par là, peut-être même récemment, aida Oliver à oublier le mal du pays. Il était si loin de surplomb du monde. Avec un peu de chance, se dit le jeune homme, ils trouveraient devant eux un village où de braves gens leur offriraient un repas, une agréable conversation et une douillette chambre avec deux lits, voire un seul matelas défoncé s'il n'y avait pas mieux. Au fil de leur voyage, Peretta et lui avaient appris à se contenter de peu. Et depuis que la magicienne Nietzsche les avait chargés d'une mission, ils partageaient le même objectif. Les gens de surplomb du monde, et le reste de l'humanité aussi, devaient une fière chandelle à Nietzsche et à ses compagnons. Pour commencer, la magicienne avait vaincu le buveur de vie, qui menaçait d'assécher le monde en usant de son don. Ensuite, elle avait abattu Victoria et désamorcé sa machine destructrice à base d'invasion végétale. Cet exploit-là avait coûté la vie à la pauvre orpheline nommée Chardon, qui reposait désormais au-dessus de la vallée qu'elle avait contribué à sauver. Mais Nietzsche et Nathan avaient leurs propres objectifs aussi. En signe de gratitude pour leur service et parce que c'était la bonne chose à faire, les habitants de surplomb du monde avaient fourni deux volontaires prêts à traverser des terres inconnues pour atteindre Tanimura puis l'Empire d'Aran. En plus d'une copie des informations consignées par Nathan dans son livre de vie, Oliver et Peretta transportaient des lettres destinées au seigneur Rall. Car il fallait à tout prix qu'il soit informé de l'existence de surplomb du monde et de sa formidable bibliothèque de magie. Une nouvelle dont les Sœurs de la Lumière sauraient elles aussi tirer parti. Dans l'excitation du moment, Oliver s'était porté volontaire, excité à l'idée de découvrir le vaste monde. Bien entendu, il n'imaginait pas dans quelle galère il s'embarquait. Peretta avait accepté de l'accompagner afin de représenter les mémoristes, qui ne s'entendaient pas toujours très bien avec les érudits traditionnels comme Oliver. Victoria ayant été la dirigeante des mémoristes, Le jeune homme se demandait si Peretta était motivé par la culpabilité plus que par le sens du devoir. Cela dit, personne ne les avait interrogés sur leur motivation. Puisqu'ils voulaient partir, qu'ils partent. Pendant qu'ils se préparaient, Oliver avait écumé les archives en quête d'informations sur les terres habitées situées à l'ouest des montagnes, sur la côte et sur le grand océan. Souvent malade dans sa jeunesse, il était plutôt frêle. Très tôt, il s'était réfugié dans la fabuleuse bibliothèque, au cœur de la Mesa, s'immergeant dans la lecture et dans le recensement des textes. À surplomb du monde, les étudiants étaient chargés d'inventorier un nombre incroyable d'ouvrages. Consigner les titres, classer les livres, les tablettes et les rouleaux, tout sauf les utiliser. Réputées bien trop dangereuses, les archives magiques ne devaient plus servir à qui que ce soit, et c'était très bien comme ça.
« Avant de commencer à apprendre, » avait dit un jour Simon, le conservateur en chef, « nous devons d'abord savoir ce qu'il y a sur nos rayonnages. »
Fasciné par ce qu'il lisait, Oliver oubliait souvent sa tâche première, le classement, pour se plonger dans des traités d'histoire ou de géographie, des recueils de récits et de légendes ou de mystérieux grimoires. Avant de partir, il avait étudié toutes les cartes disponibles. Ensuite, il avait retrouvé Peretta hors de la ville.
« Qu'est-ce qui t'a retenu ?»
l'avait-elle tensé.
« J'ai en mémoire toutes les informations pertinentes. Tu n'aurais pas dû perdre ton temps. »
Une fois sortis des canyons, les deux jeunes gens avaient suivi à la lettre les descriptions détaillées et les notes fournies par Nathan. À cause des ravages provoqués par le buveur de vie, tous les villages proches de la Grande Vallée étaient abandonnés. Traverser ces lieux déserts avait plus d'une fois valu des frissons glacés à Oliver. Dans les montagnes, en revanche, les deux voyageurs avaient rencontré des paysans, des fermiers et des mineurs qui habitaient de petits camps qui semblaient s'être récemment réveillés d'un profond et long sommeil. À Lockridge, après qu'Oliver eut mentionné Nietzsche et Nathan, les deux émissaires de surplomb du monde avaient reçu un accueil triomphant. Bien des jours plus tard, alors que Peretta et lui longeaient le fleuve, l'oreille enchantée par le doux murmure du courant, Oliver pensait surtout au chemin qui les attendait encore. Nietzsche, Nathan et Bannon venaient vraiment de très loin. Ses pauvres pieds pouvaient en témoigner. Peu enthousiaste à l'idée de devoir les forcer à marcher, il se consola en pensant au sophisme qui lui avait si souvent remonté le moral à surplomb du monde. En lisant une page à la fois, on peut arriver au bout du plus gros livre du monde. Pour lire la bibliothèque entière, il faut s'attaquer à un livre à la fois, puis à un rayonnage et enfin à une salle. Voir le voyage sous ce jour semblait une bonne idée. Une truite tachetée bondit soudain hors de l'eau, goba un insecte en plein vol et replongea. Fasciné, Oliver s'arrêta pour voir les ondulations de l'eau.
« Ce fleuve m'impressionne !»
avoua-t-il.
« Je sais que nous allons dans la bonne direction parce qu'il va se jeter dans l'océan, là où nous allons aussi. » « Je sais tout ça !»
lâcha Peretta en repoussant en arrière ses boucles brunes.
Elle continua son chemin, ouvrant la marche sans prendre le temps de s'émerveiller de rien.
En aval du fleuve, les deux messagers tombèrent sur d'autres villages où on les accueillit très bien. S'ils n'avaient pas d'argent pour payer le gîte et le couvert, ils pouvaient raconter des myriades d'histoires et c'était au moins aussi précieux aux yeux des villageois. Cerise sur le gâteau, ces braves gens les aidèrent à s'orienter. Leur prochaine étape importante, Renda-sur-Bay, était un village de pêcheurs où Nietzsche et ses compagnons avaient rejeté à la mer les terribles norukaïs. Un après-midi, sous un soleil de plomb, Oliver et Peretta se sentirent vraiment mal, dans une atmosphère humide très différente de celle du désert. S'ils favorisaient la pousse d'une végétation luxuriante, le fleuve attirait aussi des nuées de moustiques et d'autres insectes mordeurs ou piqueurs. Malgré des gestes frénétiques, Oliver ne parvenait pas à chasser ses assaillants.
« Je crois que notre sueur les attire, »
dit-il.
« Pourtant, ce n'est pas l'eau qui manque. »« Ils se fichent de notre sueur, »
dit Peretta hautaine.
« Ce sont des buveurs de sang. C'est expliqué dans un des livres que j'ai mémorisé. »«
Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me surprend pas, »
marmonna Oliver. Au début, pour passer le temps, les voyageurs échangeaient souvent des récits. Oliver résumait ses lectures et Peretta récitait les meilleurs passages de livres particulièrement intéressants. Puis, les choses avaient changé.
La jeune femme semblant considérer leur relation comme une compétition permanente. Peu désireux de déclencher un conflit, Oliver s'était accommodé de cette situation. Un jour, Peretta s'était emmêlé les pinceaux au milieu d'une phrase. Elle, oublier des mots qu'elle avait mémorisés? À l'évidence, c'était la pire chose qui pouvait lui arriver. Des larmes aux yeux, toutes tremblantes, elle s'était enfoncée dans des broussailles sous prétexte d'avoir quelque chose à faire. En réalité, elle avait passé de longues heures à pleurer. Oliver le savait, même s'il ne comprenait pas pourquoi. Suivant la route plutôt fréquentée, ils atteignirent une zone de haute colline où le fleuve devant eux s'élargissait avant de se déverser dans une baie. Au-delà, le monde n'était plus qu'une vaste étendue bleue ourlée d'écume par endroits. Cette fois, Oliver ne distingua pas la rive d'en face, et ça n'avait rien à voir avec sa mauvaise vue. Très loin devant lui, l'eau et la ligne d'horizon se confondaient. Près du jeune homme, Peretta se tut au milieu d'une phrase, ses grands yeux marrons écarquillés.
« Esprit bien-aimé !»
s'exclama-t-elle, une main serrant le bras d'Oliver.
« On dirait que la moitié du monde est inondée. »«
Je crois plutôt que c'est ça l'océan. »
Pour une fois, la jeune mémoriste ne discutailla pas.
« On dirait que tu as raison. »
À l'embouchure du fleuve, ils trouvèrent Renda-sur-Bay, exactement comme ils l'avaient prévu. Marchant d'un pas plus vif, ils y entrèrent en se souvenant du récit des trois visiteurs. Après un combat acharné contre les Norukai, Nichi, Nathan et Bannon étaient partis, laissant le soin aux villageois de recoller les morceaux. Quand ils aperçurent les deux voyageurs, les habitants ne parurent pas s'émouvoir. Les colporteurs ne devaient pas être rares dans la région. En approchant, Oliver et Peretta saluèrent joyeusement ces braves gens. Plusieurs vinrent à leur rencontre, l'air curieux, et le jeune érudit cita le nom qui, il le savait, ferait office de sauf-conduit.
« C'est la magicienne Nichi qui nous envoie. » « Et nous sommes en route pour Dara. »« Un très long voyage, » ajouta Peretta. « Nous avons besoin d'aide. »
Surpris, les villageois se regardèrent, puis murmurèrent entre eux. Du coin de l'œil, Oliver distingua des maisons en cours de construction au cœur de la ville et des tours encore inachevées des deux côtés de la baie. Un type costaud à la longue barbe brune sourit aux deux jeunes gens.
« Je suis Thaddeus, le nouveau maire de Renda-sur-Bay. « Si ce sont nos sauveurs qui vous envoient, soyez les bienvenus. Que pouvons-nous faire pour vous ?»
Peretta avança et parla très vite.
« Nous devons délivrer des informations vitales venant de Nichi et de Nathan. Il est aussi question de la bibliothèque de surplomb du monde. Nos ordres sont clairs. Contactez dès que possible le Seigneur Ral et les Sœurs de la Lumière. »
« Avant de partir, » dit Thaddeus, « Nichi et Nathan nous ont laissé les mêmes instructions. » Nous avons envoyé deux messagers, mais sans connaître la distance à parcourir. Vous deux, vous aurez des nouvelles plus fraîches pour le Seigneur Ral.
Avant de répondre, Oliver s'essuya le front d'un revers de la main et chassa une mouche importune.
Il nous faut un bateau et quelqu'un qui puisse nous conduire de la côte fantôme à une ville du Nord. Ce serait déjà un bon début.
Le maire n'hésita pas une seconde.
Considérez que c'est acquis. Pour aider Nichi, nous ferions n'importe quoi.